mercredi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat et dans les grands tous les samedis sur Beurre FM avec Manuel Mariani. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe.
Comment allez-vous Manu?
Ça va très très
aujourd'hui.
Bien.
Aujourd'hui, on a du tirage au sort aujourd'hui à faire.
Oh là là, m'en parlez pas.
Bon, on va mettre le cap sur la cité phocéenne comme on dit.
Absolument, absolument. Nous allons partir à Marseille. Alors on va y partir à travers un livre. C'est un peu Marseille par les Marseillais. Marseille qui cuisine le monde, c'est le titre du livre de Véran Frediani, dont on vous avait déjà parlé pour son film À la recherche des femmes chefs. Parce qu'elle fait beaucoup de recherches, Véran Frediani. Elle recherche le steak ultime, les femmes chefs. Et puis là, elle recherche la cuisine du monde à Marseille. Elle l'a trouvée d'ailleurs, tout est dans le livre. Il y a 256 pages de cuisine du monde à Marseille. Mais pas que, hein, Véran, bonjour. C'est aussi des rencontres. C'est un livre à plusieurs entrées, quoi.
Ce n'est pas qu'un livre de recettes. C'est vraiment un livre pour découvrir des personnages marseillais divers et variés, et je voulais vraiment que chaque participant s'approprie le livre et fasse un peu, c'est un peu ses pages finalement. J'ai fait aussi les photos du livre mais je voulais avant tout donner la parole aux Marseillais. Ouais.
Mais c'est ça, c'est à la fois des adresses, des portraits, des recettes, des lieux.
Un peu d'histoire aussi.
Un peu d'histoire.
Bon, dans tout ce que je fais, comme vous l'avez dit, il y a une recherche, mais c'est aussi une volonté de parler de la gastronomie avec un angle social et sociétal, voir à quel point la gastronomie peut faire évoluer nos sociétés.
Alors, pour les gens qui connaissent pas forcément très bien Marseille, on pensait que Paris était la ville où on pouvait trouver toutes les cuisines du monde, et que dans les autres villes on trouvait de la cuisine locale. Mais en fait, quand on feuillette votre livre, on s'aperçoit qu'on peut manger du couscous, du mafé, des falafels, des pizzas. Bon, on trouve pratiquement tout. Alors, j'ai pas trouvé de Waterzooi, mais peut-être que j'ai pas assez fouillé dans le livre.
Il y a une belge à Cassis.
Ouais. Alors, est-ce que c'est vraiment une ville par son statut de port, de commerce, etc.
C'est une ville monde, bien entendu. Sa situation, finalement, on est face à la Méditerranée, mais on est face au monde. Et de toute façon, les vagues migratoires ont nourri Marseille, au sens propre comme au sens figuré. Et on a tous, à une ou deux générations près, des ancêtres qui viennent en fait de très loin ou juste de l'autre côté de la Méditerranée. Et tout ça fait Marseille, et a toujours fait Marseille. Mais aujourd'hui, ça a du sens parce qu'on se rend compte finalement que c'est la société du futur, ce mélange.
Marseille, c'est le turfu, comme dirait Philippe.
Exactement.
Alors moi, je suis plutôt dans le passé, Manu. Alors j'ai appris justement dans le passé que c'est à Marseille qu'a ouvert le premier café.
Oui, le café est arrivé en France par Marseille.
Ouais.
Oui, et même c'est un Marseillais qui a ouvert le premier café à Paris. Donc on vous a un petit peu éduqué.
Ah, on est un peu chauvin à Marseille, je vois. On est un peu chauvin.
Non, beaucoup de produits sont arrivés par Marseille. Bien sûr, c'était un port et les épices notamment, mais aussi le rhum. Et il y a toute une histoire aussi de Marseille avec les alcools et le rhum, dont je parle dans le livre avec Guillaume Ferroni, qui lui est un fou furieux de l'histoire des spiritueux.
Oui.
Et d'ailleurs a créé un des meilleurs pastis aussi du coin.
Que vous avez offert à votre père. Qu'est-ce qu'il vous en a dit, votre père?
Il n'a pas osé ouvrir la bouteille tout de suite. Pour lui, c'était un peu trop précieux et classe.
Ah oui, quand même.
Non, parce que c'est
On l'a gardé pour les grandes occasions.
C'est du pastis chichi, en fait.
Alors,
Moi,
qui suis d'origine corse, j'ai envie de dire que le vrai pastis marseillais, c'est le Casanis. Hein.
Oui, alors attention, parce que moi, mon nom, c'est Frediani, hein, comme vous l'avez dit. Alors, Corse du Sud ou Corse du Nord?
Ah, moi, je suis épicentre, Haute-Corse, épicentre de la Corse.
Ok. Moi, ouais. Je suis de Castaniche.
Ah, c'est plus haut.
Mais ça ira, on va pouvoir s'entendre quand
même.
Ça va,
la Castaniche, ça va. C'est pas des Génois, comme on dit chez moi. C'est pas des Génois, la Castaniche.
Alors, je pensais que le plat emblématique de Marseille, c'était la bouillabaisse. Eh bien, pas du tout, c'est le pied paquet.
Ah oui.
Oui, il y a une grosse histoire aussi avec les abats, effectivement. C'est une ville qui a toujours été populaire, donc on a mangé.
Il y a beaucoup de gens à qui vous avez demandé de vous proposer des recettes.
Oui.
Et qui vous disent, ah ben non, moi, je vais faire les pieds paquets de ma grand-mère.
Y compris des pâtissiers. Et donc, Clément Higgins était comme ça. C'est pas que ça se perd. La bouillabaisse est un plat aujourd'hui très cher, en fait, dans les restaurants.
Ouais, hors de prix, même.
Oui. Et c'est pour ça aussi que j'ai appelé le chapitre « Marseille sera une ville de poissons » parce qu'effectivement, il va falloir se décider à le redevenir. Mais aujourd'hui, le poisson est très cher. Et au-delà de ça, la bouillabaisse, est-ce que c'est spécialement marseillais ? J'ai l'impression que dans plein de pays proches des mers et des océans, on fait une sorte de bouillabaisse. Mmh. Avec les pêcheurs l'ont toujours fait.
Oui, c'est le nom qui change. La bouillabaisse s'appelle bouillabaisse parce que en fait on donne la recette. Hein. C'est à bouille et puis à baisse quoi. Hein. C'est le.
Oui, voilà, exactement. Mais je pense que il serait bon à Marseille de refaire un peu des bouillabaisse populaires, comme un peu on a fait les bouillons à Paris ces dernières années. Voilà.
Faire
je vais peut-être me lancer là-dedans.
Le bouillon à la Marseille.
D'ailleurs, exactement.
D'ailleurs, vous donnez une recette de bouillabaisse du futur. Mais moi, je reviens sur mes pieds paquets.
Oui.
Qu'est-ce que les pieds paquets ont de marseillais, finalement? Et pourquoi c'est un plat emblématique de la ville?
Et puis, qu'est-ce que les pieds paquets, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément, d'ailleurs
Oui, c'est de la panse de mouton ou d'agneau et des pieds aussi, voilà. Avec des pommes de terre. Et au départ, c'était vraiment ce qu'on mangeait, ce que les ouvriers mangeaient au bord de l'Uvonne, en fait, qui est une petite rivière qui arrive dans Marseille, vers les quartiers de la Pomme, tout ça. Bien entendu, on a dit que c'était un homme qui avait inventé la recette, mais bon, enfin, ayant fait À la recherche des femmes chefs, comme documentaire, je peux à peu près être sûre que c'est une femme qui l'ait cuisiné, à la base, dans ce fameux restaurant au bord de l'Uvonne. Mais non, on a un historique avec les abats, parce que, encore une fois, on a toujours mangé tout l'animal. Oui.
Oui, et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans le sud comme ça, les hommes veulent bien manger la panse, mais la nettoyer, non, là ils prennent pas le temps par contre, hein, parce que c'est du boulot. Hein.
Oh non, et nettoyer quand même les pieds paquets.
On l'achète.
Non, mais les pieds paquets, c'est vrai qu'aujourd'hui on les achète chez les traiteurs, les charcutiers, ils sont très bons.
C'est pour ça que je vous dis que c'est un plat qui se cuisinait moins, qui se perdait.
Mais on a quand même on a toujours quelqu'un autour de nous qui peut les cuisiner pour Noël, pour la fin de l'année. Et donc, Clément Higgins, qui est un pâtissier formidable, qui a ouvert les Bricoleurs de Douceur, quand je lui ai parlé du livre, il faut vraiment que chacun mette une recette qui lui tient à cœur. Il m'a dit, moi, les recettes d'un pied paquet de ma grand-mère, elle me tient à cœur. Et j'ai trouvé ça formidable, en fait. C'était vraiment le but du livre.
Mais c'est pas illogique d'ailleurs, parce que à la base, les pieds paquets, on amenait sa marmite au boulanger et.
Oui, pour qu'il fasse cuire les pieds paquets dans le four à bois. C'est vrai.
Le fait que ce soit un pâtissier qui choisisse cette recette, ça peut.
Bravo.
Ça peut rejoindre un petit peu le.
Bravo.
Alors, c'est Comptoir des Beaux-Arts qu'on mange la meilleure caissera de Marseille.
Pourquoi ? Je crois surtout que c'est.
Qu'est-ce qu'il a cet endroit de particulier ?
Ce qui est fou, c'est que c'est un endroit déjà qui ne paye pas de mine. Que j'ai vu faire la queue devant ce comptoir à peu près tout le monde, toute culture confondue. Et quand je posais la question, en fait, chacun avait sa manière de manger la caissera, avec une ratatouille, avec un plat de viande, que ce soit des plats typiquement légumes du soleil, ou que ce soit des plats africains, des plats maghrébins. Finalement, tout le monde se l'approprie et fait son propre mélange. Donc ça m'a interpellée. Et Loisna, qui est en photo dans le livre, était très émue quand elle l'a vu, le livre.
Oui, il est très beau, le livre, d'ailleurs, hein, parce qu'on en parle, les auditeurs ne l'ont pas entre les mains. Il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup de rencontres, d'interviews.
Et c'est des personnes qui sont pas habituées à être dans les livres de cuisine. Et ce qui revient toujours, j'étais à Marseille encore toute la semaine dernière, parce que le livre est sorti la semaine dernière, c'est de me dire, mais Alexandre Mazia est dans le livre aussi. En fait, oui, on l'oublie, mais
attendez, c'est qui Alexandre Mazia?
Alexandre Mazia, c'est le nouveau restaurant 3 étoiles de Marseille.
Restaurant AM.
AM, qui lui est né au Congo et est arrivé en France à l'âge de 15 ans. A pas mal bourlingué et a posé ses bagages à Marseille il y a quelques années. Aujourd'hui, je pense en fait qu'il fait partie de ces personnes qui ont redynamisé la gastronomie marseillaise, parce qu'en fait, pendant la pandémie, il a ouvert un food truck. Et tout le monde y est allé voir ce qu'il faisait. Et ça a cassé des barrières aussi. C'est très intéressant. Donc aujourd'hui, quand le livre arrive et qu'effectivement le comptoir des Beaux-Arts avec la caissera est assez ému finalement de se retrouver avec tout le monde dans le livre, je comprends. C'est à l'image de Marseille. Voilà.
Et vous y avez appris tout sur la shorba.
Oui.
Ça, c'est drôle, parce que finalement, qu'est-ce que vous allez apprendre sur la shorba en pleine pandémie? Qu'est-ce que vous avez appris sur la shorba que vous ne connaissiez pas?
Non, mais qu'on l'épaissit avec des pâtes, comme on fait avec la soupe de poisson, en fait.
Oui.
Avec des spaghettis. Moi, ça me plaît, parce que j'aime bien les soupes qui tiennent au ventre.
Au Maroc, l'harira, on l'épaissit avec la tadouira, qui est un mélange de, d'eau, de citron et de
shorba,
farine.
Spaghettis, vous étiez chez les Italiens, là.
Oui, c'est ça.
J'étais la shorba d'Andoum.
Voilà, ou chez les Tunisiens. Mais là, qu'est-ce que vous racontez, là?
C'est la shorba sicilienne.
Mais je pense que là, il y a vraiment une création à Marseille. On mélange. C'est bien.
Oui, c'est vrai que, ne serait-ce que vous parlez dans le livre de pizza. Sur les pizzas, on retrouve des garnitures qui sont pas toujours méga italiennes à Marseille.
Chaque culture a mis ce qu'elle voulait sur sa pizza. Les Corses, bien entendu, avec le brucio ou la brousse ou un peu de figatelle. Et les Arméniens ont mis de la viande. Il y a la poutargue qu'on peut mettre sur sa pizza. Donc la pizza c'est un terrain de jeu et moyen de s'exprimer. Mmh. Et effectivement, on a des cartes à rallonge dans les pizzerias.
Alors, qui c'est qui a inventé le camion à pizza?
Alors, la légende veut que ce soit quelqu'un du Nord, qui soit...
Jean Méritant.
Oui, qui est, en fait, pompé un peu l'idée de la baraque à frites.
Ouais. Dans le Nord, en fait.
J'ai vécu à Lille, en plus, donc c'était effectivement très sympa, les friteries en camion. Et c'est des lieux formidables aussi pour échanger, quand on attend son morceau de pizza ou sa barquette de frites. En fait, j'aurais même l'idée de faire une sorte de battle à Marseille entre des camions du Nord et des camions du Sud. Ce serait drôle, quoi.
Et là, vous dites qu'aujourd'hui, le camion à pizza, c'est une histoire marseillaise, finalement.
Oui, bien sûr.
C'est la frite contre la panisse, c'est ça?
Oui, en fait, le pois chiche contre la pomme de terre. Oui. En fait, chacun a son camion préféré. Et puis aussi, on parle avec le pizzaïole, on parle avec les personnes qui attendent leur pizza. C'est, y a toujours un écran aujourd'hui, un peu, pour regarder un match quand même. Et donc, c'est des lieux de vie.
Et il n'y a pas de four électrique, mais du vrai feu de bois.
Oui.
Ça, c'est important.
C'est vrai.
Allez, on reste à Marseille jusqu'à 13h, Manu, aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a deux tirages au sort. Hein, Maître
Boilly,
vous allez avoir du boulot.
Ah oui, elle va tourner la roue beaucoup, Maître Boilly.
Qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui, Manu?
Alors aujourd'hui, on gagne. Donc nous avions reçu Emmanuel Rion, meilleur ouvrier de France, glacier.
Elles vont être fondues, les glaces. Depuis le temps qu'on va les gagner, celles-là.
Absolument. Non, mais on les a gardées à bonne température. Non, elles sont bien au frais chez Emmanuel Rion. Donc on va gagner des Frenchies. C'est l'équivalent des mochis, mais en version française, puisqu'on a remplacé la pâte de riz par de la guimauve. Enfin, je dis on. Emmanuel Rion l'a fait. Et puis, on va gagner également le livre de Guillaume Gomez, À la table des présidents, qui était notre invité. Oui, absolument.
Sublime livre. Et en plus, qui a été dédicacé par le chef. Hein.
Absolument. Donc ça, on en fera le tirage au sort tout à l'heure. Et puis, vous pourrez jouer pour gagner le livre de Véran Frediani.
Excellent.
Qui va vous le dédicacer d'ailleurs avant de repartir. Et puis comme c'est pas Noël mais
quand
presque.
Quand il y en a plus, il y en a encore. Ouais.
Hein, quand on a su qu'on recevait Véran Frediani, j'ai ressorti dans mes archives à la recherche des femmes chefs le DVD, un super documentaire.
C'était une VHS hein, parce qu'on vous parlait d'archives.
Non. Super documentaire de Véran Frediani et on va retrouver des chefs marseillaises mais pas que hein. Il y a Anne-Sophie Pic, Adeline Grattard, etc. Et voilà, super DVD, vous pourrez le gagner aussi.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
À Marseille aujourd'hui jusqu'à 13h, Manu.
Ah oui, absolument. Et puis avec une guide qui connaît bien la ville puisqu'elle y habite, c'est Véran Frediani. Et donc Marseille, c'est vraiment la nouvelle destination food en France à l'heure actuelle.
Mais je le crois notamment parce que ça reste accessible et abordable en termes de prix.
Oui,
c'est
ça.
On peut vraiment passer du temps à goûter plein de cultures culinaires différentes, mais qui se mélangent, hein, encore une fois, c'est très, très créatif. Sans se ruiner, voilà, on peut se faire plaisir et ça c'est assez unique aussi.
Ouais, ça pourrait être le sous-titre du livre un petit peu, hein, manger le monde entier sans se ruiner.
Ouais.
Parce que effectivement à Marseille on peut manger au coin d'une rue pour 1,50€, comme on peut manger chez Alexandre Mazia, on en parlait tout à l'heure, pour beaucoup plus cher, mais des choses beaucoup plus raffinées.
Oui, oui, mais il a encore son food truck, hein, d'ailleurs, il le ressort. Pour des festivals, il y a aussi tout le travail de la friche de la Belle de Mai, où il y a vraiment aussi des cuisiniers en devenir qui travaillent là-bas et qui proposent des plats qui sont là pendant la fête du couscous, enfin le festival du couscous qui est fin août début septembre. Tout l'été, il y a les cuisines africaines aussi qui sont mises à l'honneur à la friche de la Belle de Mai, avec des carrioles. Enfin, il y a vraiment un gros mélange accessible.
Ouais. Il y a une mode d'ailleurs en France en ce moment des food courts, ces grands espaces où il y a plein de food trucks qui viennent. Et on a un peu l'impression que c'est un concept qui pourrait pas trop marcher à Marseille, puisque Marseille c'est un food court à ciel ouvert en fait.
C'est un peu ça, oui, c'est vrai. C'est déjà un gros food court, notamment Noailles, Belzunce et le cours Julien. Oui, le centre.
Ça, ce sont des quartiers. Hein.
Oui, pardon. Ouais. Ce sont des quartiers de Marseille. Non, mais effectivement, on n'est pas tout le temps au bord de la mer à Marseille. On est aussi dans des petites rues. Noailles, bien entendu. Mais Noailles est un lieu de vie aussi. Hein. Le marché de Noailles, ce n'est pas juste un marché pour les touristes. C'est un marché qui était là depuis longtemps. Il y avait les Halles de la Croix au milieu. Elles ont été détruites, mais ça a gardé cet esprit-là. On vient faire ses courses à Noailles.
Oui, le marché de Noailles d'ailleurs, qui selon l'endroit où on se trouve, on a l'impression d'être dans un souk par ici, on a l'impression d'être à la criée par là. Enfin, c'est un marché qui
et on entend toutes les langues aussi.
Ouais.
C'est ça qui est intéressant.
Mais tout avec l'accent marseillais.
Tout avec l'accent marseillais. Et puis il y a aussi la tchatche marseillaise, je trouve. Oui. J'ai tourné d'ailleurs dans Noailles aussi une petite vidéo. Cet hiver, et c'est vrai que de suite dès qu'on sort une caméra, là on a les Marseillais en puissance qui veulent être devant la caméra, c'est drôle.
Ouais, alors c'est vrai qu'il faudrait l'avoir dans les oreilles hein, pour se rendre compte, mais c'est vrai que les marchés à Marseille, on entend parler effectivement en wolof, en arabe, en français, en turc, mais avec l'accent marseillais. Ça c'est vraiment le point commun à tous les Marseillais.
Oui, ouais. Moi il me semble en fait que cet accent c'est vraiment quelque part le ciment de Marseille. On pourrait dire que le rap, le foot, la cuisine et l'accent, voilà, c'est vraiment ce qui nous rassemble tous. Oui.
Mmh. Dit la fille qui a pas une pointe d'accent.
Mais c'est un drame parce que j'ai fait de la télé il y a quelques années. D'ailleurs, j'étais la Madame Cinéma sur Canal+ et j'ai eu un coach pour perdre l'accent marseillais. Ça, j'ai vraiment lutté parce que j'étais horrifiée, en fait, de devoir me plier à ça. Et donc, je pense que là aussi, ce livre, ça me permet, une bonne fois pour toutes, de me libérer de tout ça et de montrer à quel point on peut être fier de Marseille. Je l'ai dit dans le livre, j'ai écrit en marseillais, mais pour moi, ça veut dire, quand on lit les textes de ce livre, on devrait entendre l'accent normalement.
Voilà, il y a la glottophobie, mais c'est vrai qu'il y a eu longtemps cette idée qu'il ne fallait pas avoir d'accent quand on faisait de la radio et de la télé. Il y a quelques exceptions qu'on montre toujours du
bien
doigt.
Bien entendu.
C'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, peut-être, mais non.
De toute façon, je vous rassure, tous les Marseillais, y compris moi, reprennent fortement l'accent quand on s'énerve, et on s'énerve souvent.
Alors, pour ceux qui nous écoutent, il y a énormément d'adresses dans votre livre. Alors, je pense à tous ceux, puisque Marseille est devenu un lieu où on part en week-end, hein, avec le TGV aujourd'hui, où on part en vacances, il y a aussi beaucoup de bonnes adresses pour aller manger. Moi, je veux dire, je ne les connaissais pas, ces adresses, donc je suis persuadé que beaucoup de Marseillais ne connaissent pas vos adresses. Mais vous dites qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe à Marseille, c'est que les Marseillais sortent pour aller dîner dehors. C'est-à-dire...
Historiquement, on était plutôt une ville où on s'invitait les uns les autres à venir manger les spécialités de la famille. Et on avait toujours des copains espagnols, portugais, le couscous marocain, le couscous algérien. Et du coup, on avait l'impression finalement qu'on n'avait pas besoin d'aller au restaurant. Aller au restaurant, c'était aller à la pizzeria en fait. Ça, c'est quand même en train de beaucoup évoluer. notamment parce que, et c'est une ville très féminine aujourd'hui dans la restauration, parce que les femmes se sont professionnalisées et ont ouvert leur restaurant. Mais je pense que beaucoup, en fait, se sont professionnalisées. Ce savoir-là, aujourd'hui, ça peut aussi être une indépendance financière, une carrière. Ça, c'est un mouvement, je dirais, mondial, mais dans toute la France, qu'effectivement, la cuisine et la gastronomie aient pris une telle ampleur, probablement aussi grâce à Top Chef, tout
c'est
ça.
C'est mondial, oui.
C'est mondial. Mais à Marseille, on le sent d'autant plus. Et du coup, tous ces nouveaux restaurants, ben, ça donne envie aux Marseillais d'aller manger dehors, dans des restaurants. Encore une fois, tant qu'il reste assez accessible. Mais on a aussi de la cuisine étoilée. On a Colline Folquier, qui est quand même venue de sa Bourgogne natale.
Votre chouchoute.
Mais oui, parce que.
Pourquoi c'est
parce que depuis le départ, je savais qu'elle aurait un jour une étoile. Et elle-même voulait être la première femme cuisinière marseillaise à avoir une étoile. Et elle a ramené sa coupe à Marseille.
Qu'est-ce qu'elle fait comme recette dans le livre, d'ailleurs?
Elle fait une recette de poisson. C'est un peu d'ailleurs, elle fait beaucoup de poissons, mais elle fait aussi une aioli très.
Comment vous dites?
Moi, je dis aioli pour vous, mais sinon je dirais l'aïole.
Voilà.
Non, mais vous dites une aioli en plus, hein.
Oui.
Non, mais il faut expliquer parce que dans le livre, il y a deux façons.
Oui. Il y a deux façons de dire aioli. Aioli ou aïole.
Voilà.
Mais, par contre, Colline a réinventé la présentation de l'aioli, et ça, c'est. Enfin, je sais pas, ça fait du bien de voir une bourguignonne qui réinterprète un plat local. Ouais.
Oui, parce que quand on pense bouillabaisse, on pense aussi aioli. Et vous vous interrogez.
J'en ai parlé de la bouillabaisse justement chez Shanghai Kitchen avec un cuisinier chinois. Parce que il me disait, je n'ose pas faire. Non, ça c'est Christian Qi, mais Tao Wang en fait chez Shanghai Kitchen qui vient de Shanghai me disait, j'ose pas faire une bouillabaisse à la chinoise et ça va venir en fait, il va le faire.
Il y a des marmites de poisson dans la cuisine chinoise qui ressemblent un peu à la bouillabaisse, donc il pourrait oser.
Et je pense que
fait de mettre le nom dessus qui n'ose pas en fait, c'est ça.
Oui, ouais. Et en fait là, bon, pour moi, le livre est là pour leur dire aussi, allez-y quoi, appropriez-vous tout ce que vous voulez, transformez et on vous suivra. Les Marseillais aujourd'hui sont prêts à suivre. Et bon.
Alors, puisqu'on parle du chinois, on va parler de l'ail.
Oui.
Parce que vous dites qu'en France, aujourd'hui, l'ail qu'on a vient beaucoup de Chine, compris à Marseille.
C'est vrai. Même temps, je dis aussi qu'on ne peut pas leur en vouloir, parce qu'ils ont une histoire avec l'ail aussi. L'ail n'est pas né en France, en fait. Elle a été importée de l'Est, quelque part, entre le bout de l'Europe de l'Est et le début de l'Asie. Et finalement, l'ail a migré des deux côtés, vers chez nous, la Méditerranée, mais aussi vers l'Asie et la Chine. Donc beaucoup de recettes chinoises ont de l'ail.
Oui, et j'ai envie de dire qu'ils savent utiliser l'ail, les Chinois, puisqu'ils consomment et le bulbe, donc la gousse d'ail, mais ils consomment aussi l'ail qui a poussé, donc le vert, certains grands chefs aiment appeler ciboulaille. Mais c'est Jean-François Piège qui appelle ça ciboulaille. Mais bon, c'est juste de l'ail frais.
Oui, exactement.
L'ail nouveau.
Et j'étais étonnée, alors là aussi, parce que je voulais absolument parler de l'ail dans ce livre, parce que c'est vraiment un ingrédient qui nous passionne tous, et on en mange beaucoup, on a toujours cette haleine aillée. Et en fait, j'étais ravie de trouver ce lien avec la cuisine chinoise, parce que la communauté chinoise à Marseille commence à vraiment être importante. Et on se rend compte finalement, j'ai découvert déjà que Marseille était jumelée avec Shanghai, ce que je ne savais pas. Tout comme j'ai découvert que c'était jumelée aussi avec Kobe au Japon. Et on comprend mieux après les cuisines qu'on retrouve à Marseille aussi.
Mmh. Voilà. L'ail, on en met partout.
Oui.
À Marseille.
Oui. Beaucoup dans les salades, bien sûr, parce qu'on mange quand même beaucoup de salades, mais sur le pain, sur les croûtons pour la soupe de poisson, on en met énormément. On le cuit aussi, d'ailleurs. Enfin,
on le cultive.
On a toujours de l'ail. Oui, il y en a encore un peu quand même.
Un peu. Ouais.
Je suis allée chez Nicolas Grégoire autour d'Aix. Oui. Il y a des techniques en plus pour spécifiques à la région mais on est concurrencé pas que par les Chinois, il y a l'ail égyptien, l'ail argentin mais voilà, je voulais aussi donner un autre regard là-dessus, peut-être que l'ail qui arrive d'ailleurs a une réalité aussi dans l'histoire culinaire du pays.
Alors il y a l'ail, mais aussi les herbes de Provence, puisqu'on y est.
Là, il faut faire attention parce que beaucoup d'herbes de Provence ne viennent
plus de Provence.
Oui. Oui, souvent, il y a des herbes de Provence, elles ont jamais vu la Provence. Hein,
je pense qu'il faut aller se balader dans les collines et ramasser ces herbes.
Vous avez rencontré des femmes justement qui.
Ouais, qui savaient plus quoi ramasser en fait. Mais oui, et donc moi, je suis passée par une femme qui s'appelle Célia Brousgout, qui a une association qui s'appelle La Draille Comestible et qui organise des balades dans les collines de Marseille, y compris d'ailleurs au Palais Longchamp dans Marseille Intramuros. Mais
votre quartier, ça.
Ouais, où j'étais vraiment souvent entre midi et deux, entre deux cours au collège. Mais
oui, on voit votre collège en photo d'ailleurs dans le livre.
J'ai tenu en fait à. C'est quand même un livre très personnel. Mmh. C'est un livre très personnel, mine de rien. Mais donc par rapport aux herbes de Provence, oui, je vous encourage à aller vous balader avec des spécialistes en fait dans les collines marseillaises et dans les calanques, parce qu'il y a plein de choses à ramasser. Encore une fois, gratuites. Qu'on peut utiliser et qui font la différence en fait dans les plats, dans les soupes, oui.
Mais qui ont un vrai goût.
Qui ont un vrai goût. Voilà.
Et qui viennent vraiment de.
De Provence.
De Provence.
Ouais. C'est pas des herbes de province, hein, ça ne pas confondre.
Alors on parlait du camion à pizza. Où est-ce qu'on mange une bonne pizza à Marseille?
Oh là là! J'ai longtemps hésité.
Parce que les questions, vous posez la question quand même finalement. Oui. Question qui fâche.
Si elle n'en cite qu'un, elle ne peut plus rentrer à Marseille.
J'ai longtemps hésité. D'ailleurs, je n'ai pas fait de classement pour les restaurants en Corse parce que je voulais pouvoir rester en vie. Mais pour les pizzerias, je me suis lancée dans le livre. J'en mets une bonne dizaine. Je pouvais pas faire un top 3. Hein, c'était pas possible.
Ouais.
Et ça dépend aussi du quartier. C'était une façon pour moi aussi de rappeler que dans chaque quartier, il y a une bonne pizzeria, y compris à Saint-Barnabé, Montolivet, qui sont un peu plus excentrés, un peu plus résidentiels, avec la pizzeria à l'Etna, et bien sûr près des plages, bien sûr au Panier, chez Étienne, bien sûr en haut des collines, Vauban, chez la Bonne Mère, l'eau à la bouche, bon, pour moi c'est un sine qua non, vous pouvez acheter votre pizza, aller vous la manger sur les rochers, c'est vraiment un truc à faire, au coucher du soleil, qui dure longtemps à Marseille, donc on peut vraiment le faire. Et après, sur la route vers les Goudes, vous avez plein de pizzas. Et des camions! La dernière photo du livre, c'est un camion sur le Prado, et c'est à peu près, c'est ma photo préférée, en fait. Pour moi, ça symbolise vraiment la soirée à Marseille.
Les camions qui fument.
Ouais.
Bon, Manu, dans un instant, nous allons tirer au sort et on continue de, justement, nous promener à cette balade gastronomique dans Marseille jusqu'à 13h.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Et avant de retourner à Marseille, on vous gâte ce matin, Manu.
Absolument, parce que vous allez pouvoir, ce matin, ce midi même, hein, Philippe, hein, on va pouvoir, vous allez pouvoir, pardon, gagner des Frenchies glacés de chez Emmanuel Rion, meilleur ouvrier de France glacier. Donc les Frenchies, c'est les mochis à la française, hein, avec de la guimauve autour et de la bonne glace à l'intérieur. Et puis vous allez pouvoir gagner le livre de Guillaume Gomez, hein, dont vous avez été nombreux à jouer sur Instagram. Et on va faire le tirage au sort tout de suite, Philippe.
Voilà, allez-y, ouais. Manu.
Et on va commencer par le tirage au sort pour les glaces. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis tout à fait d'accord avec vous, Manu. Si vous voulez, on est prêt jusqu'à avant 13h, si vous pouvez, c'est bien.
On va essayer. Non, parce qu'en même temps, je fais marcher la machine.
Attends, Manuel Mariani avait soirée foot.
Voilà.
Je peux vous dire. Et aujourd'hui, il est frais, mais moins que les glaces.
Et voilà. Et Maître Boily va lancer la roue. Voilà, et le gagnant, c'est une gagnante. Alors, son profil Instagram, c'est Véronique ICK à la fin, et le chiffre 10. Donc, bon. Véronique 10.
J'espère qu'elle habite quand même en région parisienne pour aller chercher ses glaces.
Eh ben, on espère aussi.
Sinon, on ira les chercher pour elle.
On pourra même les manger pour elle.
On l'aidera.
Alors, deuxième, est-ce qu'on tire au sort,
ouais, on y va, Manu. Deuxième cadeau, oui.
Allez, alors le deuxième cadeau, donc c'est le livre À la table des présidents, le livre de Guillaume Gomez, ancien chef de l'Élysée. Et c'est parti pour le tirage au sort. Maître Boily lance la roue. Et là, le gagnant, alors on ne sait pas si c'est un gagnant ou une gagnante, le compte Instagram, c'est Ludio7, avec un Y. Voilà, donc Véronique 10 et Ludio7. Il fallait avoir un chiffre à la fin de
ce profil. C'était très, 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 très beau livre. Vous allez voir qu'il sera chez vous dans quelques jours. Tout à l'heure, vous pourrez jouer à partir de 13h hein, pour justement gagner le livre dont on parle aujourd'hui, Manu.
Absolument. Le livre de Vérane Frediani, notre invité du jour, qui est Marseille cuisine le monde aux éditions La Martinière. Un très beau livre, 256 pages. Hein, il y a de la matière. Il y a du travail. voilà, et c'est Marseille par les Marseillais à travers 75 recettes, mais aussi des rencontres, des portraits, des photos.
Voilà. Par les Marseillais et par les Marseillaises, parce qu'il y a beaucoup de cuisinières à Marseille.
Soyons inclusifs.
D'ailleurs, le livre est écrit en écriture inclusive.
J'ai essayé de respecter tout ça le plus possible. Ouais. C'est important.
Un livre que vous auriez pu appeler épicé n'est pas piquant.
Oui, la version non inclusive faisait 42 pages.
Oui, c'est ça.
Non. Très, très beau livre. Très, très beau livre. Et puis, en plus, vous le rappelez, je crois, à un moment dans le livre, la Marseille, c'est aussi la capitale européenne de la culture depuis
2013.
Depuis 2013. Et c'est aussi, on peut dire, une petite capitale de la culture world food, un peu.
Oui, je pense aujourd'hui qu'on symbolise le mélange et on peut en être très fier en fait de ce mélange marseillais. On est sur la route de l'ail, on est sur la route du pois chiche, on est sur un carrefour en fait.
Ouais, le fameux pois chiche avec les panisses.
Oui. Bah oui, les frites aussi.
Alors les panisses, les panisses, oui, pour tout le monde.
Alors les panisses, effectivement, c'est de la farine de pois chiche qu'on fait on en fait une pâte qu'on coupe en rondelles et qu'on fait frire. Revenir à la poêle si vous êtes chez vous, parce que là aussi les panisses on les mange quand même le plus souvent à l'apéro chez soi. Par contre à l'Estac, il y a 2-3 baraques à panisses et qui sont magistrales et on mélange ça avec des chichis, donc on a la panisse salé et le chichi sucré. Mmh. Ça permet d'équilibrer les bonnes choses.
Oui, c'est ça. Le cholestérol et le diabète.
Oui, ouais. C'est ça.
Mais ça va ensemble.
La glycémie et le cholestérol.
Même le pois chiche, c'est parfait, c'est l'idéal. Et il y a aussi la street food, Manu, algérienne, puisqu'on parle
mais
de
du coup,
de
voilà,
pois
le pois
chiche,
chiche ouais. Là aussi, m'a permis de parler de ce fameux mélange avec la calentica, sorte de flan algérien au pois chiche aussi.
Donc né en Algérie, mais... espagnol, hein,
qui effectivement a des origines espagnoles, mais là aussi c'est comme ça qu'on retrace grâce à la cuisine et aux recettes l'histoire d'une partie du monde finalement et les influences comme ça qu'on a intégrées.
Une bonne adresse à Marseille pour la calentica.
Non, en fait, la calentica, parce que je l'ai faite.
Il y a la recette.
Il y a la recette, je l'ai faite avec du kiri dedans et tout ça, c'était sublime. Ah, oui. Et donc appropriez-vous la calentica. Et sinon, dans Noailles, bien sûr, vous pouvez la trouver. Ouais. Bien sûr, chez Charlie, il y en a, mais il y en a aussi dans d'autres endroits. Enfin, vous pouvez...
chez Charlie,
au nouveau souk aussi de la cantine de Nour, vous pouvez en trouver. Mais lancez-vous. Le livre est là aussi pour ça.
Mais c'est ça qui est bien aussi à Marseille, c'est que la calentica, on en trouve dans plein d'endroits et toute l'année. Alors qu'à Paris, j'ai l'impression que c'est surtout un peu à Barbès, un peu à Belleville, surtout pendant le Ramadan. Ça a pas pris ce côté street food à Paris comme à Marseille. Alors il y a plein de street food à Paris, mais peut-être pas autant que Marseille.
Bah, c'est parce que les Parisiens doivent descendre et apprendre des Marseillais.
Vous parlez de l'arrivée
en football aussi, non?
Alors on parle pas de football.
On a arrêté le foot. Je crois qu'on joue au volley-ball là, en ce moment.
D'accord.
Tiens, en parlant de foot, une recette qui est incroyable et qu'on trouve dans votre livre en parlant de ballon de football.
Ah, la recette incroyable.
Le chou-fleur,
mon Dieu, oui, bien sûr.
Alors, c'est vrai que j'ai des transitions.
Oui.
Parfois, il faut me suivre. Je sais. Mais j'ai une logique. Et donc, ça ressemblait à un ballon de football.
Alors, je reviens sur l'idéal. C'est Aurélien Baron chez l'idéal avec Julia Samut qui ont fait ce fabuleux chou-fleur.
Moi, je trouvais qu'il ressemblait à un ballon de football, mais peut-être que c'est voilà.
Oui, c'est vrai. La recette s'appelle le chou-fleur ballon. Donc, effectivement, avec de la chapelure dessus et puis avec des anchois, des olives noires, la feta, là aussi c'est d'inspiration, on le disait,
un peu levantine ouais.
mais l'idéal là aussi est un gros mélange la famille Samut en fait a des origines tunisiennes, c'est vraiment, et la maman par contre de Julia vient des Vosges, Reine Samut. chef étoilé.
Étoilé, bah, triplement même, je crois. Non, deux étoiles, je ne sais plus.
En ce moment, c'est sa fille. Aujourd'hui, c'est sa fille Nadia Samut qui a repris le restaurant et qui a une étoile. Et Rennes a eu deux étoiles, oui. Deux ou une. Il faudrait que je vérifie. Ouais. Mais en tout cas, bon, c'est une excellente femme chef qui a deux filles formidables et qui œuvre beaucoup, en fait, Nadia notamment, pour tout ce qui est sans gluten. Et Julia, au cœur de Noailles, a vraiment, là aussi, dynamisé la rue d'Aubagne en créant des liens entre tous les commerçants, notamment chez Yacine en face. Ils font des battles de couscous ils mangent les uns chez les autres. Enfin,
Yacine, c'est une institution à Marseille.
C'est une institution, oui, oui, oui. C'est une,
il est connu pour quoi, Yacine?
Blédil, KFTJ, mais aussi pour mettre ses tables un peu partout dans la rue et on s'assoit à n'importe quelle heure, dès 10h du matin, vous pouvez y passer.
Oui, c'est pas Anne Hidalgo qui accepterait ça chez nous.
Oh, si, en année d'élection. et c'est copieux chez Yacine en plus, c'est ça qui est bien.
Ouais, c'était fou parce qu'en fait, je suis passée vers 10h du matin, donc j'ai goûté beaucoup de choses. Mais j'avais dans l'idée d'aller déjeuner chez Romain et Marion, qui est un restaurant afghan. Donc c'est vrai que je suis arrivée dans le restaurant. Alors là, ça va être compliqué. C'était une grosse journée.
Et il y a une expression.
Et c'est pour ça que vous trouvez une page sur le café afghan dans le livre.
Ouais, mais il y a une expression qui dit il faut manger son poids.
Ah oui, là, c'est mes origines corses hein, qui parlent. Mais oui, en tant que Corse, on est habitué à manger son poids pour faire plaisir. C'est-à-dire, quand vous arrivez dans un repas de famille, faut avoir un pantalon avec un élastique.
Voilà, il y a toujours une vieille tante derrière qui dit « mange, mange, mon coco ».
Et surtout, quand tu finis ton assiette, c'est parce que tu en reveux. Donc, on te resserre.
C'est le principe. Le festival du couscous à Marseille, donc ça c'est en septembre.
Oui, fin août, début septembre, ouais. Avec une grosse soirée ou plusieurs même grosses soirées à la friche de la Belle de Mai. Mais après, beaucoup de restaurateurs aujourd'hui et de chefs y participent dans divers quartiers. Bien entendu à Noailles, cette année c'est les 100 ans du Fémina. Et je pense que toute la famille Cachetel.
Alors, Fémina, c'est pas le prix littéraire, ouais. Le Fémina, c'est un restaurant kabyle, enfin, algérien.
On est à Marseille, une famille kabyle, qui effectivement tient ce restaurant de père en fils et de mère en fille. Et c'est un couscous à l'orge.
Allez, voilà. Couscous à l'orge vert, oui.
Ouais. Et cette année, je pense que du coup, fin août, début septembre, il y aura une grosse fiesta.
Et alors, puisque vous faites dans vos reportages, souvent, vous êtes à la recherche d'eux, tantôt les steaks, tantôt les femmes chefs, etc. À quand, à la recherche du meilleur couscous de France, vous voulez rester juste sur Marseille ou
non, vous n'avez pas d'envie d'aller chercher le meilleur couscous? Non, je trouve, moi, qu'en fait, ce livre devrait, le tome 2 du livre devrait être La France cuisine le monde, en fait, et me balader un peu partout pour aller, pour justement mettre en avant ce mélange dont la gastronomie française a cruellement besoin, parce que bon, j'aime beaucoup Guillaume Gomez, mais personnellement, je trouve qu'on ronronne un peu et qu'on a besoin d'admettre que les influences étrangères en cuisine ont énormément servi à la gastronomie française dans les années 70, notamment pour la nouvelle cuisine qui a beaucoup pompé sur la cuisine japonaise. Mais aujourd'hui, on a besoin de se renouveler et des chefs comme Maurice Sacco amènent des choses. Georgiana View amène énormément, en fait.
Kelly Rangama.
Bien sûr. Et là, aujourd'hui, cette vitrine de la gastronomie française, elle a besoin de changer. Elle a besoin de représenter cette diversité qui nous nourrit.
Donc, vous allez peut-être vous transformer en Julie Andrieux, mais avec une cuisine pas spécifiquement franco-française, mais
l'avantage,
ouverte sur le
monde. L'avantage, c'est que je suis une mauvaise cuisinière. Donc, je suis prête à tout découvrir et à tout rechercher pour apprendre. Et j'apprends au fur et à mesure. Et j'aime beaucoup aussi l'histoire qu'il y a derrière chaque recette. Voilà.
Qu'est-ce qu'un endroit dont on a beaucoup parlé, comme le Mucem, a changé sur le rayonnement de la ville et justement sur le rayonnement gastronomique? Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce qu'il y a beaucoup d'établissements qui se sont installés dans le quartier, des petits restos bobos, comme on dit?
On a rénové en fait tout un quartier qui était le quartier, on va dire, coincé entre le vieux port et le port autonome, grâce au Mucem, grâce aux docks qui ont été complètement remis au goût du jour. Dedans, aujourd'hui, vient d'ouvrir un magnifique espace Paul Ricard avec un magasin, un restaurant, un bar et le panier qui est collé aussi, qui est le plus vieux quartier de Marseille, qui est vraiment là où finalement la cité phocéenne a démarré, sur un mélange, d'ailleurs, déjà, entre les Grecs et les Liguriens qui étaient là. Mais je pense que tout ce quartier-là aujourd'hui est peut-être... Enfin, le panier, non, c'est resté dans son jus. Il y a surtout de nouveaux restaurants dedans où je vous encourage à aller parce que vraiment, malgré les touristes, ça reste très authentique et très bon. Il y a beaucoup de bons restaurants. On n'est pas dans les beaux en Provence, quoi. C'est pas, je vous vends du savon à tous les coins de rue.
Ça n'a pas été passé au Karcher, ça reste dans son jus.
Ça reste comme ça. Autour du Mucem, par contre, oui, c'est peut-être un peu trop beau pour l'instant pour les Marseillais. Donc, on reste autour. On va sur cette esplanade magnifique face au ferry qui quitte le port pour la Corse, l'Algérie, la Tunisie. Moi, j'adore y être là, juste assise, à manger encore une fois un morceau de pizza. Mais je fais comme tous les Marseillais. Je monte les escaliers, je vais voir la vue, je passe la passerelle au-dessus du Mucem et derrière je rentre vers le panier acheter une pizza. Je vous encourage à le faire même si vous n'êtes pas Marseillais. Après, oui, à l'intérieur, le directeur du musée fait son job. Il y a des choses à voir. Oui.
Oui, alors vous parlez du quartier du panier. C'est vrai que c'est un quartier qui a très longtemps eu une mauvaise réputation, mais on a l'impression justement tous les restaurants qui ont ouvert dans ce quartier l'ont un petit peu, j'aime pas le terme assaini, mais l'ont un petit peu rendu un peu plus bankable.
Vous allez dire boboisé un peu. Non, les restaurants, vous pouvez toujours aller à la Vieille Pelle manger une pizza ou des plats d'ailleurs un peu. Des plats vraiment italiens et vous ne serez pas déçus.
Au juste prix, c'est la question en fait.
Au juste prix aussi, oui, ouais. Bien sûr. Douceur Piquante, qui était un restaurant comorien qui est dans le livre et dans le panier, mais tout l'été elle sera à la Friche. La chef Najati Bakar, donc elle était en plein milieu du panier. Il y a aussi un très bon restaurant africain, je ne sais plus de quel pays, qui a ouvert dans le panier et qui est accessible. Voilà.
Et on peut gagner justement ce livre de Vérane Frediani. Vous allez sur mon Instagram, Mariani, M-A-R-I-A-N-I, .manuel, M-A-N-U-E-L, et vous vous laissez guider.
Allez, vous réécoutez cette émission en podcast si vous le trouvez. On fera un jeu d'ailleurs. Voilà. Trouvez le podcast de Dessus de Table. Il y aura peut-être quelque chose à gagner, Manu.
Oui.
Et puis vous pourrez voir la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été notre guide à Marseille. Vous avez oublié la caméra. Passez un très bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.